pour le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin, la grève à la SNCF peut être un tournant. Le vote du Sénat aujourd'hui pourrait porter le coup de grâce au mouvement après 26 jours de grève. PSA ne fabriquera plus de voitures en Iran. Le constructeur français est contraint de quitter le pays en raison des menaces de sanctions américaines. Il y a quelques jours, c'est Total qui faisait ses valises. Des villages traversés par des coulées de boue. L'Alsace touchée à son tour par les orages et les inondations. 16 départements sont en alerte ce matin. Dans 20 minutes, question sur la nouvelle loi logement. En cours d'examen à l'Assemblée, on ouvre le débat, Nicolas, avec vos invités.
Mais oui, logement, accessibilité des logements aux personnes handicapées, HLM, rôle et place des architectes, débat entre deux députés à 8h20, intervenez 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le sans-papier tunisien qui avait sauvé deux enfants d'un incendie ne sera pas expulsé. Les autorités finalement pourraient lui accorder des papiers français. Des soupçons de bavure policière à Ville-d'Avray, dans les Hauts-de-Seine, on vous racontera tout ça. À l'étranger, l'Inde qui croule sous les déchets de plastique. Et puis le dernier jour pour vos impôts, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir votre déclaration en ligne. C'est quasiment son terminus. La réforme ferroviaire sera adoptée aujourd'hui au Sénat après l'avoir été à l'Assemblée. Les sénateurs y ont ajouté plusieurs mesures destinées à rassurer les cheminots. Après deux mois de conflit, 26 jours de grève et une mobilisation qui semble s'essouffler, qu'en est-il du côté des usagers et des grévistes? Le conflit est-il tout doucement en train de s'éteindre? Reportage et éléments de réponse, Hélène Philly.
À 17h, gare Montparnasse, les voyageurs se pressent. La grève, tout le monde ou presque y pense, mais chacun s'en arrange.
On se prépare avant, quoi. Il y a peut-être moins cet effet du début où il y a la grève et du coup ça fait un peu partie maintenant tout le temps du quotidien. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier en fait, pourquoi il y a la grève et pourquoi tout ça.
Charlène est philosophe, Clémentine elle est soulagée.
Oui, clairement, ça va mieux.
Comment ça se traduit?
Les trains le soir, aux heures de pointe, ils sont beaucoup plus là.
Ça devrait bien se passer. Allez, on y va.
Stéphane, agent d'escale à Paris-Montparnasse. Les premiers jours... Je me rappelle 4 trains pour un Paris-Bordeaux, par exemple, 4 ou 5. C'est pas énorme, hein, sachant que maintenant, Paris-Bordeaux, en 2 heures, si je me trompe pas, il y a à peu près 18 allers-retours par jour. Donc c'est compliqué, il y avait beaucoup de monde. Et puis après, on en rigolait parce qu'il y avait pratiquement plus de gilets rouges que de clients. Les clients s'étaient adaptés, covoiturage, aérien, bus.
Stéphane guide les voyageurs vers le train. Ramoucho est parmi eux, sac sur le dos, il vient d'Andail. Il est cheminot et il est gréviste.
Les gens, ils s'habituent, ils prennent les trains qui circulent et puis... C'était le risque de faire ce mouvement perlé comme ça, carrément.
Pourquoi? Parce qu'il faut que ça se voit une grève et que là, elle ne se voit plus.
Il fallait faire jusqu'à crever.
Beaucoup d'amertume chez Ramoucho alors que se profilent des jours décisifs pour la suite du mouvement.
Et après ce vote au Sénat, il restera encore une étape pour valider la réforme, le vote de la loi par une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs. Ce sera mercredi de la semaine prochaine. Les cartons plutôt que les sanctions. La décision est donc tombée hier soir. Le groupe PSA annonce qu'il va quitter l'Iran. Le constructeur français se plie aux injonctions des États-Unis qui viennent de relancer les sanctions contre le régime de Téhéran et contre tous ceux qui font du commerce avec lui. Bonjour Michael Thébault.
Et bonjour Marc.
C'est un coup dur pour le constructeur?
Ah, c'est en tout cas un sérieux revers, hein. Car l'Iran est aujourd'hui le plus grand marché étranger en volume pour PSA, qui a écoulé l'an dernier près de 450 000 véhicules. C'est 50 000 de plus qu'en Chine, par exemple, 60 000 de plus qu'en Grande-Bretagne, et presque le double des voitures vendues en Allemagne. Gros volume donc, mais petit profit. Les ventes en Iran ne représentent qu'un pour cent du chiffre d'affaires du groupe, tout simplement parce que PSA n'y vend à bas prix que d'anciens modèles de Citadine, type Peugeot 206 ou 405, marge faible, mais qui assurait néanmoins en français une position de leader. Et position évidemment très enviable pour l'avenir, avec un marché iranien très prometteur, car largement sous-équipé en voiture. Peugeot venait ainsi d'investir près de 400 millions d'euros, 300 millions d'euros pour Citroën.
Alors il y a quelques jours, c'est Total qui annonçait déjà son départ d'Iran. Est-ce qu'on peut dire que dans ce dossier, les Américains ont gagné?
Sur le papier, pas encore tout à fait, puisque PSA, comme Total, demande une procédure de dérogation aux autorités américaines, avec le support du gouvernement français, précise le constructeur. Mais un support, il est vrai, plutôt discret, hein. À l'Elysée comme à Bercy, on dit suivre de très près tous ces dossiers. Mais la récente petite phrase d'Emmanuel Macron, qui disait préférer, je cite, en substance, la diplomatie au commerce, avait déjà douché les espoirs de Total. Son PDG, Patrick Pouyanné, jugeant extrêmement faible la possibilité d'obtenir une telle dérogation.
Merci Michael Thébault. L'Iran, il en sera question aujourd'hui à l'Elysée, où Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il est en tournée dans les grandes capitales européennes pour dire tout le mal qu'il pense du régime de Téhéran. Dans la série, les États-Unis font la loi sur la planète. Hier, c'est la Société Générale qui a accepté de passer à la caisse pour s'éviter des procès. Un chèque d'un peu plus d'un milliard d'euros pour solder deux affaires embarrassantes de corruption en Libye et de manipulation d'un taux d'intérêt. La banque était sous la menace de poursuites aux États-Unis. Le fisc américain peut se frotter les mains. Il va récupérer les trois quarts du montant de l'amende. Le reste, environ 250 millions d'euros, ira dans les caisses de l'État français car le parquet national financier s'était joint aux poursuites.
8h06, avis aux têtes en l'air et aux phobiques fiscaux.
Oui, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir en ligne votre déclaration de revenus 2017, sinon ce sera 10% de pénalité. Comme chaque année, les centres des impôts font le plein, d'autant que cette déclaration va servir de base au prélèvement à la source qui entre en vigueur en janvier prochain. Parole de contribuables et d'agents des impôts parfois un peu perdus dans un centre du 15e arrondissement de Paris. Marc Bertrand.
La file d'attente déborde dans la rue. Le centre des finances publiques attend 500 personnes aujourd'hui, comme Bernard.
J'ai fait ma déclaration sauf les questions sur lesquelles j'avais des ambiguïtés.
Il a pris sa journée pour se rendre aux impôts, histoire que tout soit carré dans sa déclaration.
En rentrant, je la termine et c'est fini, ouf.
Dans la queue, on vient pour le bien immobilier qu'on vient d'acheter ou pour une déduction d'impôts qu'on n'arrive pas à trouver sur le formulaire internet. Alors le prélèvement à la source, pour Anne, on verra ça plus tard.
Aujourd'hui, je règle les impôts de cette année et à partir du 6 juin, on pensera aux impôts de l'année prochaine et au prélèvement à la source, avec toutes les questions qu'on se pose.
Des questions, Sylvie s'en pose elle aussi. Elle a rempli sa déclaration en version papier et les agents des finances publiques sont incapables de lui dire quel taux elle paiera pour le prélèvement à la source.
Ils m'ont dit, vous serez prévenu de ce que vous devrez payer plus tard. Et voilà, et si vous payez à la source trop, on vous remboursera. Donc en fait, on a l'impression qu'on va faire crédit à l'État. Mais quand vous gagnez 1850 euros, nous, on en a assez de faire crédit à l'État.
Au guichet, les agents redoutent surtout la fin de l'été quand les avis d'imposition vont tomber dans les boîtes aux lettres. Il va falloir choisir entre taux commun ou individualisé au sein du couple ou encore le taux neutre. Et là, il va y avoir beaucoup de questions.
Un reportage Marc Bertrand, France Bleu Île-de-France. Alors, quel taux d'imposition choisir pour le prélèvement à la source? On vous aide à choisir sur franceinter.fr et pas seulement jusqu'à minuit.
Il était le héros trop discret.
Celui dont aucune caméra, aucun téléphone n'avait filmé l'exploit. Aïmen Latrousse ne sera pas expulsé de France. La mobilisation en faveur de ce sans-papier tunisien a payé hier soir. Lui qui avait sauvé deux enfants d'un incendie en 2015. Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion, mais la préfecture du Val-d'Oise a changé d'avis. Son dossier, finalement, sera réexaminé à la lumière de son geste. Julien Pasqualini.
Officiellement, l'expulsion d'Aïmen Latrousse est annulée parce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en CDI à plein temps dans une société du Val-d'Oise. Mais le préfet précise, l'examen de la demande de titre de séjour tiendra nécessairement compte de l'acte positif et altruiste par lequel le jeune homme de 25 ans s'est distingué en 2015. Il va donc y avoir un réexamen de la demande. Pour l'avocate d'Aïmen Latrousse, maître Philippine Parastatis, il s'agit d'une demi-victoire.
On peut certes se réjouir de l'avancée du dossier dans la mesure où le préfet va, semble-t-il, donc abroger cette obligation de quitter le territoire français, mais ça ne donne pas à mon client, pour autant, l'assurance d'avoir un titre de séjour. Et à mon sens, la réponse que doit apporter la préfecture, elle est parfaitement claire, parce qu'elle a été donnée par Monsieur Macron lui-même, c'est-à-dire qu'un acte de bravoure égale une naturalisation. Je considère que l'acte de bravoure doit lui donner un titre de séjour sans qu'il ait besoin de ce réexamen.
Le cas d'Aïmen Latrousse, qui contraste avec celui de Mamoudou Gassama, a fait réagir la classe politique. Hier, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, avait dit espérer qu'il ne serait pas expulsé.
Voilà 4 mois qu'il dort en prison pour la première fois depuis son placement en détention provisoire. Tariq Ramadan a rendez-vous ce matin dans le bureau des juges. Premier interrogatoire pour l'islamologue suisse qui réfute toujours les accusations de viol portées contre lui par 3 femmes.
Il est 8h09. Que s'est-il passé le 2 mai dernier à Ville-d'Avray, dans les Hauts-de-Seine?
La police des polices ouvre une enquête sur une possible bavure policière après l'interpellation d'un homme de 24 ans. Judoka de haut niveau, il affirme avoir subi un passage à tabac et des insultes racistes, précision d'Emmanuel Leclerc.
Mohamed Diakité n'a pas pu s'entraîner hier soir au pôle national de judo Porte de Châtillon à Paris. Il doit encore passer une échographie pour une épaule en mauvais état après le choc du 2 mai dernier vers 20h. L'un de ses frères, lycéen, qui discutait avec des amis et sa petite copine au pied d'un immeuble de Ville-d'Avray, venait de prendre un plomb de carabine dans l'épaule. Le tireur a d'ailleurs ouvert le feu à 4 reprises. Mais quand Mohamed arrive, un policier lui refuse l'accès, l'attrape par la capuche pour le repousser avant que les deux hommes ne tombent à terre.
Je sers de ma capuche pour m'étrangler et m'étouffer.
Dans l'altercation, Mohamed Diakité réussit à se dégager et se réfugie dans un hall d'immeuble. et c'est là que tout aurait dégénéré.
Pendant que j'étais au sol, ils m'ont frappé, ils m'ont mis des coups de poing. Je leur disais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de me frapper parce que j'étais vraiment pas bien. Et ils me disaient bah, tu vas mourir.
Et aussi, il y a le côté salle noire qui est voilà. Sorti à un moment donné.
Le côté, tu vas mourir, salle noire.
Alors qu'il est à l'hôpital, deux des frères de Mohamed se retrouvent au tribunal en comparution immédiate après une étrange garde à vue. Les deux garçons sont malentendants. Grégory Saint-Michel est l'un des avocats de la famille Diakité.
Il y a même 3 ou 4 pages d'audition, ce qui peut paraître curieux quand on sait qu'effectivement ils sont sourds et muets, sans qu'il n'y ait d'interprète en langage des signes.
La présidente du tribunal a du coup renvoyé ce volet de l'affaire au 19 juin prochain. Mais les avocats de la famille Diakité espèrent obtenir rapidement la nomination d'un juge d'instruction.
Coulée de boue et routes fermées, les orages ont encore frappé ces dernières heures, particulièrement en Alsace. Il a fallu fermer provisoirement l'autoroute A36 hier soir, recouverte par des tonnes de boue. Les pompiers en Alsace sont sortis près de 500 fois. C'est le village de Guggenheim qui est le plus touché. Son maire, Frédéric Schonens, espère maintenant que les assureurs joueront le jeu auprès des sinistrés.
Bousculer leur assureur, ne pas se laisser marcher dessus, ne pas se faire annoncer 30% de remboursement sur les dégâts qui ne sont pas chiffrables, sachant que les gens ont perdu 100%. Il y a des assureurs qui ont déjà annoncé 30% de remboursement parce que les gens ne sont pas capables de présenter les factures, alors qu'ils n'ont pas de slip pour leur petite fille qui ont 3 ans, pas de chaussures, ils n'ont plus un seul jouet pour leur fille et ils ne savent pas où dormir ce soir. Quand vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus présenter de facture, vous ne pouvez plus faire jouer votre fille à la maison. Je pense qu'à un moment, la solidarité des assureurs devrait jouer aussi et faire des cas exceptionnels à des contrats, certes un peu plus faibles, mais qui ont besoin aujourd'hui réellement de l'aide, parce qu'aujourd'hui, les communes font ce qu'il faut avec les moyens du bord, mais je pense que les assureurs doivent nous aider aussi.
Témoignage recueilli par Luc Dreosto de France Bleu Alsace ce matin. 16 départements sont en vigilance aux orages ou aux inondations. Prévision complète dans 5 minutes. Des vaches, des moutons et des ruches à la place des pistes de l'aéroport. C'est une première victoire pour les zadistes historiques de Notre-Dame-des-Landes. L'État vient de donner son feu vert aux 15 premiers projets agricoles portés par les occupants de la ZAD. Ils occuperont 10% des terrains initialement prévus pour l'aéroport. Parmi les projets qui ont été retenus, on compte 5 élevages, 3 projets de maraîchage, une meunerie, de l'apiculture, une production d'herbes aromatiques et même une brasserie avec de la bière, donc estampillée Notre-Dame-des-Landes.
8h13 à l'étranger, le bilan s'alourdit au Guatemala.
66 morts désormais après l'éruption d'un volcan, des villages entiers rayés de la carte, des blessés par centaines. La lave a coulé sur plus de 8 km, provoquant des scènes de panique par endroits. Le pays a décrété 3 jours de deuil national. En Inde, ce n'est pas un volcan qui inquiète, mais une montagne de déchets. Le pays croule sous les restes de plastique, 6 millions de tonnes produites chaque année sans être recyclées. Et le boom du commerce en ligne vient encore aggraver la situation avec ces emballages plastiques à profusion. À New Delhi, Sébastien Farcy.
Depuis environ un an, Isha, une femme de 29 ans de New Delhi, commande ses fruits et légumes sur un site internet spécialisé. Les produits sont ainsi livrés chez elle. C'est pratique et meilleur marché que dans les commerces de son quartier. Le problème, c'est que cela fait exploser sa consommation de déchets plastiques.
À chaque fois que je commande 20 produits, chaque fruit ou légume est emballé séparément dans un grand emballage plastique. Et même si vous ne prenez qu'un chou-fleur, il sera entouré d'un film plastique. Et je retire tout immédiatement, car si vous gardez les légumes dans le plastique, ils pourrissent rapidement. Je finis donc avec ces piles d'emballages plastiques à jeter. Il y en a vraiment trop. Peut-être que les gens pensent que leurs livraisons doivent être bien emballées. Et comme le plastique est la solution d'emballage la moins chère, c'est ce qui est utilisé.
Avec l'émergence du commerce en ligne, les emballages plastiques ont envahi les foyers des villes indiennes et sont devenus une nouvelle source de pollution dans un pays qui croule déjà sous ses déchets. La consommation de plastique devrait ainsi doubler dans les 4 prochaines années en Inde. Or, son recyclage est peu développé, ce qui fait que 600 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans l'océan Indien chaque année. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Tout compte fait, il aura bien lieu après l'avoir enterré il y a 2 semaines. La Maison Blanche ressuscite le sommet avec la Corée du Nord. Il se tiendra comme prévu mardi prochain à Singapour. En attendant, les discussions se poursuivent en coulisses entre les deux pays. Et puis c'est peut-être la fin de leur lune de miel. En tout cas, le dernier coup de fil entre Donald Trump et Emmanuel Macron a tourné au vinaigre. C'était jeudi dernier et visiblement le ton est monté. D'après CNN qui qualifie l'ambiance entre les deux hommes de terrible lors de ce coup de fil, le président américain n'aurait pas pas apprécié les critiques d'Emmanuel Macron sur sa politique commerciale.
Le tennis à 8h15, Roland Garros, le choc du jour.
Choc entre deux joueurs de la nouvelle génération du tennis masculin. D'un côté, le numéro 7 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem. De l'autre, le numéro 3, l'Allemand Alexander Zverev, portrait d'un homme en forme et qui n'en finit plus de grimper avec Fabrice Abgral.
Dans le genre précoce, Alexander Zverev se pose là, en référence. Cet Allemand d'origine russe est passé professionnel à 16 ans et dès son arrivée, le petit Alexander a été présenté comme la future star du tennis mondial. Malgré l'attente et le regard des autres, Zverev a toujours plutôt bien assumé son statut de grand espoir. Sans se précipiter, Zverev a appris son métier soutenu par son grand frère, Misha, et son père, ancien et modeste joueur professionnel, dans les années 80 à l'époque de l'Union soviétique. Zverev n'a jamais brûlé les étapes, il a construit sa carrière patiemment avant d'éclater au plus haut niveau l'an passé. Cette perche d'1m98 pour 90 kg a déjà remporté 8 titres, dont 3 Masters 1000, 2 l'an passé, en battant Djokovic à Rome et Federer à Montréal, et un autre il y a 3 semaines à Madrid, en surclassant précisément Dominic Thiem. Alexander Zverev n'a que 21 ans, il est numéro 3 mondial, et son ascension n'est pas terminée, car pour tous, il a un potentiel si élevé qu'à plus ou moins long terme, Alexander Zverev, à coup sûr, remportera un tournoi du Grand Chelem.
Voilà, Zverev face à Thiem pour une place en demi-finale, ça va, ça arrive à tout le monde d'arrêter la prononciation d'un joueur allemand. Ne vous moquez pas de moi, pardon. C'est à 14h à Roland-Garros.
Merci Marc Fauvel.